Bonjour et bienvenue sur les podcasts de Ciel et Espace. C'est l'histoire d'une Terre qui a mal tourné, en tout cas pour la planétologie comparée. C'est sans doute une des destinations les plus intéressantes dans les années qui viennent, peut-être un peu oubliée. Je parle évidemment de Vénus, sœur jumelle de la Terre. Éric Chassefière, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation pour parler de cette sœur jumelle, entre guillemets, de la Terre. Vous êtes planétologue à l'IDES, c'est-à-dire Laboratoire Interaction et Dynamique des Environnements de Surface. Vous êtes chercheur, donc planétologue au CNRS. Ce laboratoire est à Orsay, Paris 11. Et si nous sommes ensemble aujourd'hui, c'est pour parler des projets de retour de missions spatiales vers Vénus. Est-ce que, question simple pour démarrer, mais est-ce que Vénus, finalement, n'a pas été un peu oubliée par les agences spatiales et peut-être par les scientifiques aussi dans les dernières décennies ?
Oui, je crois que vous avez raison. Vénus a été, je dirais que d'abord, Vénus est une planète difficilement accessible. Bon, ça, c'est une... D'un point de vue spatial, il est difficile d'y parvenir et de la caractériser. Et puis, oui, Vénus est un monde un peu particulier qui est très inhospitalier. Et là, vous savez que la température au sol est très élevée, avec une pression très, très, très importante. Et je crois que le fait que Vénus soit une planète, disons, peu accueillante et qui ne soit pas propice à la possibilité, par exemple, d'une vie, à l'heure actuelle, c'est effectivement un facteur qui a joué en la défaveur de Vénus. On s'est beaucoup focalisé sur Mars depuis maintenant une vingtaine d'années à peu près. Et bon, Mars est une planète beaucoup plus accessible qui, par ailleurs, est relativement facile à observer depuis l'espace, depuis l'orbite. Il est beaucoup plus difficile de s'y poser, mais on y est parvenu. Bon, évidemment, l'attrait de Mars, c'est que Mars est une planète qui n'a probablement pas beaucoup bougé sur le plan tectonique, sur le plan de son évolution depuis plusieurs milliards d'années. Et donc Mars est une candidate idéale, disons une planète idéale pour aller, disons, observer directement le passé au présent. Et ce n'est pas, ce n'est pas du tout le cas de Vénus. Vénus est une planète qui d'abord est recouverte d'une atmosphère très opaque, donc difficile à observer, et dont la surface est probablement jeune. Elle a été renouvelée par des éruptions volcaniques très intenses durant le dernier milliard d'années. Ce qui fait que finalement, Vénus est une planète, je dirais, voilée, enfouie. Et les preuves les indices d'une vie passée, d'une évolution passée sont beaucoup plus difficiles à identifier.
Pourquoi dites-vous que c'est une planète difficile à atteindre sur le plan des sondes spatiales, pourtant elle est proche ?
Oui, elle n'est pas difficile à atteindre. Et il n'est même pas tellement difficile de s'y poser d'un point de vue balistique, à condition évidemment de savoir assurer la survie d'une capsule, d'un système, dans des conditions de température et de pression qui seront tout à fait extrêmes. Mais c'est pas qu'elle soit difficile à atteindre, elle est difficile à observer. La surface des nuages de Vénus, l'enveloppe nuageuse, cache quasiment complètement sa surface, sauf un onde radio. Et il n'est donc pas possible de pratiquer de la télédétection, disons. Enfin, en tout cas, il est possible de la pratiquer, c'est ce que fait Vénus Express en ce moment, mais il n'est guère possible par télédétection de caractériser l'atmosphère qui se trouve au-dessous d'une cinquantaine de kilomètres d'altitude, donc dans les nuages et au-dessous des nuages. Et cette atmosphère-là est très intéressante quand on s'intéresse à l'évolution, à l'histoire du climat de Vénus. Donc l'entreprise est difficile, elle est difficile et chère et risquée.
Alors, au moment où nous parlons, ça fait presque 4 ans que Vénus Express tourne autour de l'étoile du berger, puisqu'on peut aussi l'appeler comme cela. C'est une mission qui avait été prévue pour durer 500 jours. Les résultats sont importants. Comment les jugez-vous aujourd'hui ?
Les résultats de Vénus Express sont importants dans la mesure où ils permettent d'affiner une vision que nous avons essentiellement ce qu'on appelle l'atmosphère moyenne, l'atmosphère qu'on appelle photochimique exposée au rayonnement du soleil, donc au-dessus des nuages. Et cette mission a énormément de résultats qui permettent en fait d'affiner et de confirmer, disons, une vision, mais que nous avions déjà à partir des missions qui avaient déjà été opérées autour de Mars, les missions Pionier Vénus, les missions russes également. Et donc, je dirais qu'on a découvert finement un certain nombre de choses. On a caractérisé le vortex polaire, on a fait des caractérisations aussi assez fines de la superrotation au niveau des nuages. On a montré également, on a fait en quelque sorte la topographie de la surface des nuages qui permet de mettre ou disons d'imager un petit peu ce que pourrait être une cellule de convection à l'échelle globale. On a fait quelques mesures de l'atmosphère sous les nuages. On a mesuré dans des fenêtres extrêmement étroites de l'infrarouge, on a pu mesurer la vapeur d'eau, le monoxyde de carbone. Et on a pu mesurer des variations en latitude aussi. Bon, j'oublie certainement des tas de résultats importants, mais Vénus Express est une mission qui, je dirais, d'une part, sur le plan scientifique, a permis vraiment d'affiner donc une vision qu'on avait déjà, mais de la préciser beaucoup. Et puis, par ailleurs, Vénus Express a aussi le très grand mérite de relancer l'intérêt des scientifiques, de la communauté spatiale, de la communauté scientifique, des planétologues, pour Vénus, d'autant que c'est une mission japonaise, vous le savez, qui va prendre le relais de Vénus Express dans un an, enfin très bientôt.
Très bientôt, parce que ça part en mai, si mes informations sont bonnes.
Donc c'est ça, même cette année. Hein,
2010.
Ça. 2010, ouais. Donc c'est un orbiteur un petit peu différent, mais ouais. Qui va aussi caractériser l'atmosphère.
Alors, on va parler de ces missions, oui. Et de ces projets, oui. Et puis ce qu'elle veut faire, mais quand vous dites ça permet de confirmer, est-ce qu'il y avait finalement un scénario de l'histoire de Vénus qu'on peut raconter, qu'on pouvait raconter assez simplement en se disant, bon ben finalement, Vénus, son histoire, c'est ça. Est-ce que ça a démarré comme la Terre et puis ça a mal tourné ou... Et quel est le schéma général de cette histoire?
Alors, c'est quelque chose qu'on ne sait pas très bien. Vénus, la première constatation, et là on a besoin de la comparaison avec la Terre et même Mars, c'est que Vénus ressemble à la Terre. Tout d'abord, Vénus a à peu près la même taille, disons. Vénus a à peu près le même inventaire en éléments volatiles. Alors ça peut paraître surprenant puisque l'atmosphère de Vénus est constituée en majeure partie de gaz carbonique, 90 fois la pression atmosphérique, 90 bars. Mais il faut savoir que sur la Terre, si on extrayait le gaz carbonique des roches calcaires, des fonds océaniques essentiellement, on estime qu'on obtiendrait à peu près une soixantaine de bars. Autrement dit, faisons le scénario simpliste suivant, qui est d'ailleurs un scénario qui n'est absolument pas à mettre en rapport avec le réchauffement climatique actuel. Je me place sur des échelles de temps de milliards d'années. Hein. Vous savez peut-être que le Soleil est de plus en plus brillant depuis le début du système solaire. Enfin, ce sont les modèles de nucléosynthèse qui le disent. Le Soleil est de plus en plus brillant et lorsqu'on peut imaginer qu'à l'échelle des milliards d'années, d'ici quelques milliards d'années, le Soleil devenant plus brillant, la température de surface augmente. Vous pouvez imaginer par la pensée que cette augmentation de température va se traduire par l'évaporation de l'océan terrestre ou des océans terrestres. Et si vous imaginez un cas extrême dans lequel cette évaporation se traduit par le relâchement de suffisamment de vapeur d'eau, qui est un gaz à effet de serre, pour que cette vapeur d'eau se mette à son tour à chauffer la surface et à amplifier le réchauffement, eh bien, on pourrait imaginer un état dans lequel l'océan mondial s'évapore vers l'atmosphère. Et lorsqu'on calcule ce qui se passerait si tout l'océan était évaporé, c'est-à-dire si on avait 300 bars, 300 fois la pression atmosphérique actuelle de vapeur d'eau, eh bien, on trouve que la température à la surface de la Terre serait supérieure à la température de liquéfaction des basaltes, donc ce qu'on appelle le liquidus. Hein. Et à ce moment-là, ce qui se passerait, c'est que les roches de la surface de la Terre fondraient, localement, même globalement, pourrait former un océan de magma, qui est certainement une étape primitive, mais on pourrait y revenir. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passerait? Le gaz carbonique serait dégazé par les roches calcaires, et on obtiendrait une soixantaine de bars dans l'atmosphère. Si après ça, on fait l'hypothèse que l'eau, dont un constituant est l'hydrogène, peut s'échapper vers l'espace, l'hydrogène, disons, eh bien, on se dit que dans quelques milliards d'années, la Terre pourrait ressembler à Vénus. Alors, d'où le pas, évidemment, qui a été fait, qui est un pas spéculatif, de dire si dans l'avenir la Terre pouvait ressembler à Vénus, peut-être que dans le passé, Vénus a ressemblé à la Terre.
Oui.
Puisqu'en fait, le Soleil, l'augmentation de la luminosité solaire se poursuit depuis maintenant 4 milliards d'années de manière à peu près linéaire. Et d'où la tentation, effectivement, de se dire qu'à une époque de son histoire, Vénus a pu être relativement semblable à la Terre au tout début. C'est-à-dire quand le Soleil était quand même moins brillant que maintenant. Alors, voilà, à partir de ça, les scénarios sont difficiles à établir, dans la mesure où on ne dispose d'à peu près aucune contrainte observationnelle, bien sûr. Nous n'avons pas d'équivalent d'un Vénus jeune. Nous le trouverons peut-être dans les systèmes extrasolaires, dans les décennies qui viennent. Et donc, l'hypothèse la plus généralement admise est que, au tout début de sa vie, durant à peu près les 100 premiers millions d'années, Vénus aurait pu donc abriter un océan de magma, comme la Terre probablement. En même temps, se refroidir, perdre son eau, ou en tout cas son hydrogène vers l'espace. Et que, comme sur la Terre, lorsque la température serait devenue suffisamment basse, aurait pu, disons, recueillir un océan d'eau qui aurait été formé par condensation d'une vapeur d'eau atmosphérique à très haute pression, quelques centaines de bars. Alors, à ce moment-là, se pose la question de savoir si cette eau pouvait ou non condenser d'un point de vue thermodynamique. Ce sont des questions qui ont été beaucoup étudiées, notamment, je pense, à Jim Casting, un collègue américain. Et les conditions, disons, on est à la limite. C'est-à-dire qu'on est, quand on se place dans les conditions de Vénus au tout début, on est à la limite, c'est-à-dire on ne sait pas si l'eau a pu ou non condenser. Donc, soit l'eau... si l'eau a condensé, elle a pu former un océan. Par contre, avec le réchauffement postérieur dû à l'augmentation de luminosité du Soleil, cet océan se serait évaporé, ce qu'on appelle le runaway greenhouse en anglais, l'effet de serre divergent, et aurait pu, en fait, exactement se dérouler comme je viens de le décrire pour la Terre dans l'avenir.
Le problème, c'est qu'il n'y a pas d'archives sur Vénus.
Alors, il n'y a pas d'archives. C'est ce qui rend la tâche particulièrement difficile. Je reviens sur ce qu'on disait au départ. Autant sur Mars, nous avons des archives, et même des archives très anciennes, bien plus présentes que sur la Terre. Sur la Terre, les régions qui ont 3,5 milliards, 4 milliards d'années sont très rares. On en trouve au Canada, en Australie. Sur Mars, c'est partout très vieux, ou en tout cas assez vieux. Sur Vénus, on n'a pas d'archives. La surface de Vénus a été complètement reconstituée il y a à peu près 700 millions d'années, quelques centaines de millions d'années par des éruptions volcaniques généralisées. Et donc ces archives, si elles existent, sont profondes et donc inaccessibles, disons, à un terme concevable.
Quand vous dites totalement reconstitué par une quantité impressionnante de volcanisme, est-ce que ça peut nous dire même quelque chose, ce volcanisme intense?
Oui, ce volcanisme nous dit quelque chose sur la planète. Alors bon, il faudrait s'adresser à des géologues. L'idée qu'on peut s'en faire, c'est qu'effectivement, ces mécanismes pourraient ressembler un petit peu aux mécanismes de formation des trappes terrestres, hein, par exemple les trappes du Deccan, qui ont causé peut-être l'extinction des dinosaures, et d'autres trappes de Sibérie qui représentent des éruptions, disons des relâchements de panaches de lave mantélique de volume considérable, hein, des épaisseurs de dizaines de kilomètres sur des milliers de kilomètres carrés. Et donc, effectivement, le fait que Vénus ait connu ce qu'on appelle le resurfaçage, et probablement, disons, des modèles un peu spéculatifs disent que ça a dû se produire une dizaine de fois, en 4 milliards d'années, à peu près tous les 500 millions d'années. Donc il pourrait y avoir une certaine cyclicité, et ces phénomènes, je dirais de manière simple, je pourrais pas aller bien au-delà, mais de manière simple, pourraient correspondre au fait qu'il n'y a pas de tectonique des plaques sur Vénus, donc que Vénus est une planète à une seule plaque. Donc il y a beaucoup de mal à évacuer sa chaleur. La chaleur sort par conduction dans la croûte qui s'épaissit petit à petit. Et comme la chaleur doit bien sortir, nécessairement, puisqu'il continue à y avoir de la radioactivité, etc. à l'intérieur, eh bien la sortie de cette chaleur pourrait se faire de manière explosive. Tout d'ailleurs, tout comme ça a pu se passer pour Mars, même si Mars est plus petite et a accumulé certainement moins de chaleur. Donc, voilà.
On a été très impressionnés quand on a reçu les premières images de la sonde Magellan, puisque elle donnait justement ces premières images reconstituées. Il y avait un radar d'une quantité incroyable.
Alors,
de volcans.
Oui, Magellan, c'est extraordinaire. On voit tout ça, on voit des dômes volcaniques, on voit des volcans, des coulées de lave qui font des centaines de kilomètres, enfin, incisées sur des plaines un peu plus anciennes. Donc Vénus est une planète, on pourrait dire infernale, au sens de planète totalement volcanique. Et c'est comme ça d'ailleurs qu'on explique son contenu très, très, très important en CO2. C'est-à-dire que sur la Terre, le gaz carbonique est relâché par les volcans, comme sur Vénus, est recyclé dans l'océan en carbonate, notamment à cause de via l'intervention de la vie, hein, la formation des coquilles, mais sur Vénus, il n'y a pas de mécanisme de recyclage. Et donc ce CO2 qui est relâché, avec le soufre d'ailleurs, le SO2, n'est pas recyclé. Et c'est vrai que ce volcanisme de Vénus est très impressionnant. Toute la surface de Vénus est recouverte en fait de coulées de lave, de plaines, enfin 80% est recouvert de plaines volcaniques.
Mais on n'a pas vu d'explosion. On ne sait pas si ce volcanisme est actif.
Alors,
aujourd'hui.
On n'a pas vu d'explosion. Et alors, ceci dit, 500 millions d'années, surtout si ça se reproduit, si ces épisodes se reproduisent régulièrement, c'est presque aujourd'hui aux échelles de temps de Vénus. On dirait peut-être pas ça sur la Terre, mais c'est presque aujourd'hui. Donc, il n'est pas exclu que ça continue à se produire, mais Magellan n'a détecté aucun mouvement. Pour détecter de tels mouvements, il faudra envoyer en orbite autour de Vénus ce qu'on appelle un radar à synthèse d'ouverture qui fasse de l'interférométrie. On fait ça très précisément sur la Terre. On est capable de détecter par interférométrie radar des déplacements centimétriques. Donc il faudra mettre en orbite autour de Vénus un radar interférométrique. Ça sera fait, pas avant probablement une quinzaine d'années.
Alors, avant d'aborder les retours impossibles, les potentiels sur Vénus, je dirais, fondamentalement, les questions scientifiques qui se posent sur la planète, avant d'aborder aussi la planétologie comparée, c'est de valider ce scénario, c'est de vérifier que ce cadre que vous nous décrivez...
Absolument, c'est de valider ce scénario, mais il sera difficile à valider. En fait, je n'ai évoqué tout à l'heure que la moitié de la question. Il est donc possible qu'un océan se soit formé si, à un certain moment, pendant pas très longtemps, enfin, quand je dis pas très longtemps, c'est quelques centaines de millions d'années, les conditions thermodynamiques ont été favorables. Il est aussi possible qu'un océan ne se soit jamais formé, qu'aucun océan ne soit formé sur Vénus, que la vapeur d'eau soit restée dans l'atmosphère, se soit échappée, et qu'en fait, le manteau de Vénus soit extrêmement sec. Il y a actuellement des divergences dans la communauté, dans la mesure où on n'a aucune information là-dessus, pour savoir si l'eau de Vénus est partie vers l'espace ou est partie vers le manteau. Il y a des théories qui disent que le manteau est très sec, que toute l'eau a été perdue très rapidement vers l'espace au départ, par échappement hydrodynamique par exemple, et d'autres théories qui disent qu'il n'y a pas d'eau sur Vénus parce que l'eau est dans le manteau. Voilà, donc... Bon, je ne vais pas prendre parti aujourd'hui parce qu'on ne sait pas grand-chose, mais déterminer effectivement le degré d'hydratation du manteau de Vénus, par exemple, ou son degré d'oxydation, ce qui est un peu différent, ce sont des enjeux majeurs de l'exploration.
Et la composition de l'atmosphère ne nous dit rien là-dessus ?
Si. La composition de l'atmosphère, alors c'est un point très important, puisque c'est l'objet, disons, c'est peut-être la première chose, c'est le premier paramètre à mesurer, ce sont les premières variables à mesurer qui vont nous donner beaucoup d'informations. Alors, je me situe ici dans une perspective donc, de retraçage, de retracer l'évolution. Ce qu'il nous faut mesurer et qu'on n'a pas mesuré ou très mal dans l'atmosphère de Vénus, c'est ce qu'on appelle les gaz rares, c'est-à-dire la série, alors j'exclurai l'hélium, mais essentiellement néon, argon, krypton, xénon. Les gaz rares ont donné lieu à toute une discipline, on appelle la géochimie des gaz rares, pour étudier l'évolution de la Terre, ou des météorites d'ailleurs, la matière extraterrestre. Et grâce aux gaz rares, ou à la mesure de leurs rapports relatifs, ce qu'on appelle les rapports élémentaires, ou des rapports isotopiques de chaque gaz rare, parce qu'ils ont tous un certain nombre d'isotopes, les géochimistes des gaz rares, ou les cosmochimistes qui les utilisent, parviennent à retracer l'évolution. Alors comment y parviennent-ils ? Ils y parviennent parce que les gaz rares sont finalement des traceurs assez simples, qui sont inactifs chimiquement, et donc qui peuvent se fractionner de façon élémentaire l'un par rapport à l'autre, ou isotopiques dans chacune des familles, qui peuvent se fractionner suite à des processus très fondamentaux tels que l'échappement vers l'espace, le dégazage, l'accrétion. Ils peuvent même se fractionner en amont de l'accrétion au sein des planétésimaux. Et pour Vénus, dans la mesure où on est obligé... Pour Vénus, on n'a pas de mesure. On a quelques mesures qui ont été faites par les sondes de descente, Pionier Vénus notamment, mais on n'a aucune idée de ce que sont les abondances de krypton et de xénon et de tous leurs isotopes. Ceci n'a pas été mesuré. Et c'est absolument fondamental pour arriver à comparer à ce qui s'est passé sur la Terre, voire sur Mars, puisque pour la Terre et pour Mars, on a des informations précises sur les isotopes. Pour Mars, c'est grâce aux météorites SNC. Donc l'atmosphère, effectivement, je dirais sur le plan de la caractérisation de l'évolution, contient des traceurs, des enregistrements. Un enregistrement absolument essentiel, c'est celui qui a été conservé par les gaz rares, et ça fait partie de ce qu'on peut faire dans l'atmosphère de Vénus sans aller jusqu'en bas.